Si la pandémie de COVID-19 provoque une crise sans précédent, il faut reconnaître que certains secteurs écopent plus que d'autres. C'est le cas du secteur aérospatial et en particulier le volet transport aérien qui perd chaque jour plusieurs millions de dollars et a déjà mis à pied des dizaines de milliers d'employés à travers le monde. Au Québec, qui génère plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'industrie aérospatiale canadienne et près de la moitié des emplois, le défi est d'autant plus grand. Mais paradoxalement, et malgré les déboires actuels, le secteur pourrait avoir des raisons de croire en son étoile. Une étoile dans le ciel et dans l'espace où une intégration de plus en plus réussie de la recherche technologique à l'industrie, et en particulier celle faisant appel à l'intelligence artificielle, est en train de révolutionner les habitudes et les opportunités. Alors comment l'IA vue du ciel et de l'espace peut-elle nous permettre à la fois de mieux relancer l'industrie aérospatiale, mais aussi d'améliorer notre quotidien sur le plancher des vaches? Nous avons fait appel à deux experts pour nous aider à y voir un peu plus clair.
Pourquoi la conquête du ciel et de l'espace par l'IA peut-elle améliorer la vie des Québécois? Un balado C'est plus clair, proposé par la rédaction de C'est Science IA et animé par Philippe Regnoux.
Deux experts pour nous accompagner. Donc, tout d'abord, Sofiane Benyoussi, vous êtes associée chez Innovitech pour l'amélioration des process individuels et collectifs dans les entreprises et les organisations fortement orientées vers l'innovation et les technologies de pointe. Et autant dire que l'aérospatiale en fait partie. Vous êtes bien placé, on va dire, pour nous expliquer comment l'IA vue du ciel peut améliorer notre réalité quotidienne. Bonsoir Sofiane.
Bonsoir.
À vos côtés et en virtuel, évidemment, on va finir par s'y habituer, Siegfried Usal, vous êtes vice-président innovation numérique chez le géant de l'électronique dans le transport et la défense, le français Thales. Alors vous, on peut dire, Siegfried, que vous êtes l'obélix de l'IA dans l'aéro, ancien pilote de chasse. Vous êtes tombé dans l'IA avec Cort AX, le centre mondial de recherche et technologie spécialisée en IA que vous avez fondé avec Thales. Alors vous aidez à ce que l'ingénierie de l'intelligence artificielle trouve sa place dans les secteurs des transports et du coup, on va voir ce qui se passe en l'air.
Bonsoir Philippe.
Alors pour commencer, je vous propose d'écouter ceci.
L'heure est grave pour les secteurs de l'aérospatial et du transport aérien.
Je dirais 4300 postes.
Depuis le début de la pandémie.
En pleine zone de turbulence, les principaux acteurs de l'économie s'interrogent. Comment propulser leur relance?
Ça va prendre une décision à Ottawa en novembre pour aider ces secteurs-là.
Même son de cloche chez Airbus.
Le Canada, aujourd'hui, n'a pas donné de signaux forts sectoriels à l'industrie aéronautique.
Extrait d'un reportage de TVA Nouvelle diffusé le 2 novembre dernier à l'occasion de l'événement Relançons Montréal organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Un événement consacré à la situation dans l'aérospatial et autant dire que ça va pas très très bien. Alors avant de plonger la tête dans les étoiles, on va faire un état des lieux terre à terre mais assez nécessaire en ces temps d'incertitude. Alors constat morose sur le plan économique et social, mais tout n'est pas gris dans le secteur. C'est le cas du développement technologique qui va bon train. Le ministre de l'économie et de l'innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, a annoncé en septembre dernier une aide de près de 3 millions de dollars sur 5 ans au consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec, le CRIAC, avec l'objectif suivant: soutenir l'innovation collaborative en intelligence artificielle appliquée. Alors vous qui êtes au courant de tout, Sofiane Benyoussi, de quoi s'agit-il, soutenir l'innovation collaborative en intelligence artificielle appliquée?
Merci beaucoup Philippe. Juste avant de répondre à votre question, je pense qu'il est important de dresser un état des lieux sur la profonde transformation technologique avec laquelle était confronté le secteur, même avant la crise. Le marché aéronautique mondial doublait à peu près tous les 15 ans et l'industrie connaissait une forte croissance à travers la planète dans un contexte d'efficacité environnementale, dans un contexte de sécurité et l'urgence d'intégrer des nouvelles technologies par d'autres industries a inspiré beaucoup l'industrie aérospatiale. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et numérique, sous toutes ses formes, se présente comme un levier de transformation de l'industrie, de la fabrication au design, à la gestion des opérations des flottes d'aéronefs et d'hélicoptères. Et on a vu aussi la transformation globale du secteur manufacturier à travers l'industrie 4.0.
Le 4.0, c'est ça.
Exactement.
Mais là, justement, la crise actuelle, elle a tendance à finalement accélérer cette demande en numérique, justement dans l'aérospatiale. Et au vu de cette offre financière du gouvernement autour de l'intelligence artificielle, comment on envisage d'intégrer cette évolution-là, cette innovation-là dans l'aérospatiale ici au Québec?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie aérospatiale est organisée de manière extrêmement structurée. Et l'industrie, gérée de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus une communauté organique d'innovation qui se fait, qui se défait, qui est beaucoup plus fragmentée que l'industrie aérospatiale traditionnelle. Ce que ça prend de faire coévoluer l'ensemble de ces deux communautés pour créer ces ponts-là, pour avoir un aperçu de qu'est-ce qui est possible de faire et comment répondre à des enjeux concrets, répondant à des besoins de l'industrie.
D'où l'idée, Sofiane, d'innovation collaborative, c'est ça le sens, du coup ?
Absolument, absolument, c'est l'essence même de pouvoir innover, co-développer la future génération de technologies en misant sur le savoir-faire, les atouts et surtout le talent qu'on a disponible ici au Québec. On a des forces extrêmement importantes qu'il faut valoriser et je pense assurément que le Québec et le Canada a définitivement une place à jouer en matière d'aérospatiale numérique dans l'avenir.
Alors, lors de cet événement de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, les participants, ils ont indiqué que soutenir l'innovation et l'utilisation de nouvelles technologies devait être l'action prioritaire de la réponse gouvernementale. C'est quoi les pistes d'action prioritaires à vos yeux? C'est la recherche? C'est l'intégration? C'est l'aide à la commercialisation? C'est quoi qui est prioritaire?
C'est tout ça. C'est tout ça en même temps parce qu'il faut s'intégrer dans le cadre d'un continuum d'innovation technologique, de l'idée jusqu'au marché. Et l'idée, c'est de pouvoir favoriser ces liens sur l'ensemble de ce continuum-là. Donc, ça prend de continuer à innover, de continuer à explorer de nouvelles technologies sur lesquelles on va pouvoir capitaliser, mais ça prend aussi de transformer nos innovations en réel succès de marché et prendre notre place dans un marché global et international.
Qui est très compétitif.
C'est ça l'enjeu clé.
Et qui est Exactement. Très compétitif. Siegfried Usal, avec votre centre opérationnel de recherche et technologie en agents intelligents et experts, je prends vraiment mon souffle, hein. On va l'appeler par son petit nom, le CORT-AX. Comment vous évaluez le potentiel de l'IA dans le développement du secteur aérien au Québec?
Je voudrais juste, parce qu'on s'inquiète beaucoup finalement de la situation actuelle et on a raison dans le secteur aéronautique parce que la baisse est franche. On le note aussi dans Thales puisque une grande partie de nos activités sont dans l'aérospatiale et on note effectivement des baisses de revenus de 25 à 35% suivant les secteurs produits.
Ça fait mal.
Ça fait mal. Et puis on anticipe que la situation dégradée aujourd'hui le sera encore pour quelques années, peut-être 3, peut-être 4 ans, avant de revenir à une situation normale. Donc, c'est un fait, ça va mal.
Mais il y a un mais,
il y a plus de 100 ans d'aéronautique derrière nous et de transport aérien. Il y a eu une crise après les attentats du 11 septembre 2001 qui a fait mal au secteur aéronautique. Il s'en est relevé. Et comment il s'en est relevé? En recréant la confiance entre le transport des passagers et puis les avions, les aéroports. Alors, on a tous connu finalement les mesures de sécurité qui ont été mises en place, qui a d'ailleurs été pénible au début et qui a recréé la confiance, puisque on a, comme le disait Sofiane, depuis ces dernières années, on note un boom, voire un doublement du trafic aérien. Donc, on en est là aujourd'hui. C'est que les gens vont avoir du mal à voyager, à échanger, à communiquer. Parce que la Covid, parce que le virus, et ça va durer encore quelques temps, il faudra relancer, et pour relancer, il faudra donc créer de la confiance. Et la confiance, comment on va la créer? Eh bien, on va la créer avec, ensemble, comme disait Sofiane, non seulement avec le secteur de la recherche et de la technologie, avec les gouvernements. Les gouvernements ont toujours contribué à la relance économique de secteurs industriels clés, comme celui de l'aérospatiale, qui comporte beaucoup dans sa chaîne d'approvisionnement de partenaires, que ce soit les équipementiers, que ce soit le secteur aéroportuaire, du trafic aérien et les avions, bien sûr. Et comment créer cette confiance? Eh bien, c'est là que va jouer un rôle essentiel de celui de l'intelligence artificielle.
Parce que c'est ça, en fait, on se dit toujours, dans une crise, c'est évidemment de la casse, et en même temps, c'est des opportunités. On a l'impression que l'aérospatial, qui aujourd'hui le vit, comme vous venez de le signaler de manière très, très dure, très franche, est en même temps un peu au pied du mur. Il va falloir de l'innovation, il va falloir de la recherche et du développement pour encore mieux rebondir, sachant que Montréal est autant reconnu, vous l'avez dit, Sofiane aussi, pour l'IA que pour son dynamisme dans le domaine de l'aérospatial. Est-ce que l'intelligence artificielle peut, comme certains acteurs l'espèrent très, très fort, aider les entreprises du secteur à surmonter la crise actuelle? Est-ce que c'est véritablement la bouée de sauvetage, Siegfried?
Pas dans l'immédiat. C'est pas la bouée de sauvetage qu'on va lancer maintenant et qui va sauver le secteur dans un an ou deux ans ou trois ans. Faut pas rêver quand même. Les applicatifs industriels de l'intelligence artificielle commencent à peine à rentrer dans le secteur aéronautique, qui est malgré tout un secteur assez conservateur. Les avions volent toujours de la même façon depuis des décennies. Ils consomment moins, ils sont plus sûrs surtout. Et puis, ils ont permis de démocratiser largement, par la baisse des coûts, le voyage. Si on regarde avant la crise, une des difficultés du secteur du transport aérien, c'est sa fragmentation économique et le fait qu'il est parfois difficile pour un voyageur d'aller du point A au point B parce qu'il doit passer par le point AB, A1, A2, A3 avant d'arriver au point B. C'est parfois difficile. Bref, l'intelligence artificielle va permettre de faire ce qu'on appelle le multimodal.
Ouais.
C'est-à-dire de créer une expérience du voyageur la plus agréable possible en le connectant pas simplement aux moyens de transport variés, que ce soit son vélo, sa voiture, son taxi, l'avion, et puis etc., mais à toute une gamme de services qui lui seront offerts pendant son voyage, comme il l'a sur son téléphone, sur son smartphone, lorsqu'il est en ville, par exemple. Et donc, cette connectivité qui est apportée d'ailleurs en partie par l'espace, par les moyens qui sont mis dans l'espace, va lui permettre finalement d'avoir une expérience qui est encore plus agréable, puisqu'elle s'est bien améliorée par rapport à celle des années 80, encore plus agréable et surtout encore plus ouverte par rapport à toutes les prestataires qui vont l'accompagner, que ce soit Netflix, que ce soit gérer ses vacances pendant qu'il est en vol, gérer tous les besoins qu'il peut avoir dans son voyage.
Donc c'est l'expérience finalement usagée, l'expérience client qui pour l'instant retire véritablement le plus de bénéfices de l'intégration de l'IA dans l'aéronautique, si on comprend bien. Mais en même temps, c'est pas non plus tout rose, tout fluide là, l'intégration de l'IA dans l'aérospatiale, parce qu'on note quand même des obstacles réglementaires, technologiques, mais aussi et surtout, j'ai envie dire une question de culture et de mentalité d'approche qui est différente. Dans l'aéro, c'est les activités de recherche et de développement qui se font plutôt en vase clos, il y a beaucoup de secrets de fabrication, alors qu'en intelligence artificielle, la recherche elle se fait de façon ouverte et le partage des données, c'est plutôt la norme. Sofiane Benyoussi, est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec ce constat? Et puis comment on surmonte cette différence culturelle, le cas échéant?
Je suis entièrement d'accord avec ce constat, c'est qu'on a vu la naissance de beaucoup d'initiatives. Mais comme disait Siegfried, ça va prendre un certain temps avant de pouvoir en capturer l'ensemble de la valeur. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est l'absence de termes communs pour pouvoir partager ces données de manière les rendre accessibles, favoriser l'émergence de solutions pour le secteur tout entier. Et l'idée, c'est ces infrastructures de données neutres sont pourtant nécessaires pour assurer une augmentation de l'adoption des technologies numériques. Et donc, ça prend une véritable prise de conscience collective pour augmenter cette accessibilité. Et donc, il y a certains acteurs neutres, paragouvernementaux, qui sont amenés ou qui vont être amenés à jouer un rôle déterminant et important pour pouvoir favoriser l'intégration de ces solutions. Mais ça prend de changer de culture de collaboration, de miser sur une culture de collaboration renouvelée qui nous aide, en tout cas pour l'industrie aérospatiale, à surmonter le piège du silo.
C'est ça, éviter de ralentir l'adoption de l'IA. Est-ce que vous, Siegfried Husal, vous constatez aussi ces freins à cette intégration dans chez Thales notamment?
Alors les freins, ils existent historiquement, mais faut bien, juste pour la clarté là, dans l'IA, il y a effectivement toute cette gamme de services offerts qui sont soutenus par l'IA. Et donc c'est, on parle vraiment de l'expérience client. Et puis après, il y a tout l'autre côté, le côté opérationnel. Le côté opérationnel, c'est de déployer des algorithmes pour assister le pilote automatique de l'avion, pour assister le pilote qui est, peut être sa vigilance, par exemple, détecter sa vigilance ou ses baisses de vigilance, optimiser le profil des avions pour qu'ils consomment moins, parce que on veut tous que nos avions consomment moins pour l'environnement. Bref, l'aspect opérationnel, effectivement, et celui-là, il n'est pas plus secret, et il devra se faire aussi en collaboration parce qu'on est plus fort ensemble et qu'il faudra de toute façon développer des standards. Les standards sont par essence et définition partagés, donc ils doivent être développés en collaboration. C'est ce qui se fait d'ailleurs ici aussi à Montréal. Donc, et là, il faudra, c'est une autre gamme finalement d'intelligence artificielle qui reste à créer. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas aller trop vite non plus pour tout ce qui est l'aspect opérationnel du transport aérien. Ça va prendre plus de temps. En revanche, pour revenir sur le premier volet, les services ouverts, eh bien ça va être accessible assez rapidement, pour autant qu'on arrive à garantir la cybersécurité de toutes les solutions qui seront déployées dans le réseau du trafic aérien.
C'est ça. Et évidemment, toute cette question de protection des données qui est au cœur même des préoccupations, on le sait, des usagers et même des gouvernements. L'utilisation des data, on sait que, comme vous le dites très, très justement, Siegfried Husal, elle est déjà réelle pour l'amélioration du service dans l'aviation commerciale. Vous diriez que son principal avantage, présentement, il est observé plus dans le service justement aux usagers ou dans la sécurité des passagers?
Alors, ça dépend. Alors, il y a la sécurité des passagers à bord, et puis il y a la sécurité des passagers qui rentrent dans les aéroports. Je dirais qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle soutient à travers des solutions biométriques la sécurité des passagers qui rentrent dans les aéroports. Pour ce qui est des avions aujourd'hui, il faut, bon, que ce soit clair, il n'y a pas encore d'algorithmes qui sont déployés dans le système de contrôle des avions. Hein.
Donc, oui, là, on va rassurer beaucoup de gens, hein, je pense, hein, en clarifiant ce point.
Voilà, donc ça, comme je disais, il y a 10 années probablement de recherche et technologie, on a commencé l'annonce que vous faisiez là, à propos du CRIAC, ouais. Que avait fait le ministre à propos du CRIAC, ben, c'est justement ça, c'est de trouver en fait soutenir par la recherche des algorithmes d'intelligence artificielle qui auront le potentiel d'être déployés dans les avions parce qu'ils seront robustes, parce qu'ils seront transparents, parce qu'ils sont explicables. Donc ça, c'est un exemple. Mais on pourra, avant ça, déployer des assistants experts dans les cockpits des avions pour soutenir les pilotes qui resteront maîtres de toutes les décisions qui sont prises à bord.
Et du coup, Sofiane Benyoussi, est-ce que la pandémie, la crise actuelle, a accéléré cette tendance, notamment au niveau de la recherche ?
Absolument. Donc là, on voit des nouvelles. En fait, il faut comprendre qu'un contexte de crise, c'est toujours un contexte de réinvention, de pouvoir challenger le statu quo et aussi nos modes de collaboration déjà établis. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a clairement une volonté de l'industrie aérospatiale de s'attaquer aux grands défis et aux enjeux sociétaux auxquels elle devra être confrontée, et qui sont la décarbonisation de l'industrie, en passant par l'électrification, les biocarburants et d'autres créneaux, et aussi les systèmes autonomes, donc vers une mobilité aérienne durable et intelligente. Donc, pour pouvoir atteindre finalement cette grande vision que l'industrie, c'est sûr que ça prend de pouvoir s'engager dans des virages, des virages audacieux, ça prend des projets structurants. Le projet ou l'initiative qui a été annoncée par le ministre Fitzgibbon, c'en est une qui va être la première, ou gérer le premier élément d'une longue série, mais c'est un travail qui est quand même long et fastidieux. Il y a beaucoup d'enjeux à pouvoir adresser chemin faisant.
Alors, je vous propose maintenant de lever un peu plus haut la tête et de nous plonger dans les étoiles.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
Pourquoi la conquête du ciel et de l'espace par l'IA peut-elle améliorer la vie des Québécois? Un balado C'est plus clair, proposé par la rédaction de C'est Science IA et animé par Philippe Regnoux.
Alors, on vient d'entendre deux extraits sonores réunis. Le premier, c'est le lancement de la fusée SpaceX qui a envoyé, donc, il y a quelques jours, 4 astronautes dans la Station Spatiale Internationale. Et puis l'autre, c'est Simon, pour les anglophones, The Crew Interactive Mobile Companion, le petit robot basé sur l'IA qui a été envoyé par SpaceX pour aider les astronautes, conçu pour faciliter leur travail quotidien, entre autres en affichant des procédures ou en solutionnant des problèmes, grâce à son réseau d'intelligence artificielle neuronale et sa capacité à apprendre. Est-ce qu'on sait comment il va ce robot d'ailleurs, Siegfried, Sofiane, vous êtes au courant un petit peu de son évolution ?
Par définition, un robot va toujours bien parce qu'il ne dort jamais et il n'est jamais malade.
Il est parfait.
Quand il est malade, on n'entend plus parler de lui.
Bonne réponse. Alors, on lui souhaite en tout cas de continuer sa route. Alors, justement, de manière plus sérieuse, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle offre aujourd'hui réellement des moyens d'accélérer davantage la conquête, l'exploration de l'espace ? Peut-être, Siegfried, si vous voulez répondre en premier lieu.
C'est un bon exemple, Simon. C'est un assistant expert qu'on trouvera aussi, donc on voit dans la fusée SpaceX, dans le Dragon, et puis qu'on verra peut-être un jour, enfin, j'en suis sûr même, dans quelques années, dans les cockpits d'avions. Donc ça, c'est l'exemple finalement d'une intelligence artificielle qui est en soutien de la décision du pilote, donc de l'équipage dans le cadre de la fusée SpaceX. Pour ce qui est de l'espace, il faut vraiment partager en trois l'espace, parce que l'espace c'est comme le monde, donc il y a toutes les applications terrestres qu'on peut développer de l'espace, il y a toutes les opérations dans l'espace, donc toutes les constellations de satellites par exemple, et puis il y a l'exploration où là effectivement on va mettre les humains dans des machines pour aller explorer. C'est trois choses qui sont très différentes et c'est trois secteurs où va s'appliquer l'intelligence artificielle.
Alors justement, là, on est plus sur l'exploratoire. Là, on viendra un peu plus tard sur les possibles, effectivement, retombées de ce qui se fait dans l'espace pour nous terriens. Mais là, justement, l'IA, on le voit, elle accompagne les pilotes. Elle a une mission, justement, d'accompagner la navigation d'une certaine manière. Mais l'IA, elle aide aussi à fournir des systèmes de soins, de santé, plus intelligent que l'équipement utilisé lors des missions actuelles. Quelle forme ça prend concrètement, Siegfried ?
Alors, l'espace aujourd'hui, il est sous contrôle terrestre. Enfin, il n'y a aucun spatieux astronaute
qui est indépendant, autonome, c'est ça ?
Ouais, exactement.
Il n'est pas connecté.
Absolument. Sur les vols de longue durée, ça ne sera plus le cas. Il va falloir que l'astronaute se transforme en médecin, qu'il ait différentes capacités et expertises pour s'auto-diagnostiquer, parce que il n'y aura pas Houston au bout de la ligne qui pourra régler son problème. Et donc, parce qu'il n'y aura pas Houston, il faudra ni Simon, ni un autre. Il faudra une intelligence artificielle qui les assiste. Et on développe aujourd'hui ce qui pourrait être les prémices, effectivement, de capacités de diagnostic autonome de certaines pathologies qu'on connaît aujourd'hui dans l'espace, parce qu'il y a déjà beaucoup d'expérimentations qui ont été menées, et puis d'autres qui seront moins connues, et on n'aura pas beaucoup de data aujourd'hui sur ces pathologies et de la façon dont ça se comporte dans l'espace, et donc on est en train de développer des modèles simulés, faire des simulations de comment pourraient se développer ces pathologies, et comment surtout les astronautes pourront les identifier assez avec beaucoup de précision grâce à des intelligences artificielles.
Donc ça veut dire que si on résume, grâce à l'IA, on va s'assurer à la fois d'un meilleur suivi de la santé des astronautes qui vont donc être effectivement totalement autonomes. C'est plus de sécurité lors des missions spatiales, c'est bien ça ?
Ben, c'est non seulement de la sécurité, puis donc important pour chacun des astronautes, puis une condition d'aller au bout de ces explorations. Hein, vous imaginez un accident cardiovasculaire d'un des astronautes qui n'est pas identifié avant qu'il arrive. Une fois qu'il arrive, il peut y avoir beaucoup de conséquences pour la conduite de la mission, ouais, jusqu'à son terme. Hein. Donc, il faut savoir anticiper pour pouvoir prévenir, voire prescrire avant que la maladie,
le mal arrive.
L'incident arrive.
Ouais. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on voit que les progrès qui ont été réalisés dans le domaine des capteurs, hein, qui intègrent les technologies d'intelligence artificielle ou de réalité virtuelle, ils pourraient permettre d'ajouter des capacités de prédiction supplémentaires, comme vous le dites, aux technologies de télésurveillance, de télésanté. Finalement, le développement de ces pratiques d'IA en santé loin dans l'espace pourrait être transposé également sur Terre dans les cliniques, notamment les cliniques des régions éloignées, coupées du monde. Est-ce que c'est un peu ça aussi le cheminement naturel de ces solutions, Sofiane ?
Absolument. En fait, l'espace a toujours joué un rôle d'accélération du développement technologique qui ont un impact concret sur Terre, que ce soit en matière de développement durable, en matière de recherche scientifique, en matière de valorisation pour la santé. Et aujourd'hui, on utilise des systèmes complexes de télécommunication pour favoriser l'observation terrestre et pour pouvoir répondre à des solutions contre la pauvreté, contre... Donc, il y a un apport définitif de ces technologies. Le monitoring de populations éloignées, c'est un sujet qui est important pour le Canada parce qu'on dispose de populations éloignées, les hôpitaux de campagne, mais tout ce qui concerne aussi la réponse d'urgence à partir du moment où les infrastructures critiques sont dysfonctionnelles, ben ça prend en fait de nouvelles formes pour pouvoir télédiagnostiquer, aider finalement ces populations éloignées ou souvent confrontées à des drames environnementaux. Donc l'espace joue un rôle majeur en termes de valorisation, mais souvent il y a une méconnaissance de ces avantages de ces technologies spatiales. Aujourd'hui, on espère beaucoup qu'avec la lancée et le momentum du New Space et de l'ouverture du New Space au fait au privé et à des industriels, va amener peut-être ce potentiel de valorisation de ces technologies pour des applications terrestres de manière beaucoup plus soutenue et accentuée.
C'est ça, parce que le commun des mortels, on pourrait se dire l'espace c'est loin, très très loin de nous, alors qu'en fait ça nous amène, et c'est l'un des plans d'un de ces trois espaces dont vous parliez, Siegfried, toutes ces retombées potentielles des innovations loin dans l'espace en IA qu'on expérimente actuellement dans le ciel avec leur potentiel répercussions positives, évidemment, sur Terre. On vient de le voir avec la télémédecine, mais c'est aussi le cas de ce qu'on appelle communément le Earth Observation, l'observation de la Terre. C'est sans doute là qu'on peut dire à nos auditeurs que l'IA dans l'espace rejoint concrètement toutes nos réalités quotidiennes. L'observation de la Terre via les satellites, il y a de plus en plus de satellites qui prennent des images, qui collectent des données, les analysent, des technologies qui sont utilisées aussi bien pour les mouvements militaires, les feux de forêt, les données de réchauffement climatique, les sols. Est-ce qu'on peut imaginer que toute cette combinaison magnifique de l'IA, de l'espace, vont aller croissante, vont nous permettre aussi d'aider la gestion des catastrophes naturelles, les feux, mais aussi les inondations de façon plus accrue, Siegfried ?
Oui, définitivement. Et puis, c'est assez simple à comprendre, même si le sujet est complexe à réaliser. C'est qu'aujourd'hui, on est à l'an zéro, finalement, de l'observation spatiale. Parce que vous développez un satellite, ça vous prend 3 ans, vous l'envoyez dans l'espace, il va y être 5 à 10 ans maximum pour certains. Et puis, sa mission sera toujours la même et ses capacités seront toujours les mêmes. Et il va être limité énormément par sa capacité de communiquer tout ce qu'il voit. Déjà, il voit pas tout parce que il a un temps de rafraîchissement, il reconfigure pas sa mission, etc. Ben, l'IA, c'est ça. L'IA, c'est la reconfiguration des missions, des capacités dans les satellites grâce à des nouveaux processeurs, grâce à des nouveaux capteurs. Et puis, c'est surtout une capacité de faire naviguer, de transmettre toutes ces informations en temps réel ou grâce à des capacités plus accrues de large bande, mais surtout une capacité de processing de toutes ces données en live pour permettre de ne communiquer que l'information de valeur et pas l'information large qui n'est pas interprétée, etc.
C'est ça.
Donc, et c'est ça qui fait la grosse différence, c'est cette combinaison en fait de différentes technologies d'ailleurs, grâce à l'intelligence artificielle, la combinaison de plusieurs satellites, la reconfiguration automatique qui va permettre effectivement ce sont les mêmes applicatifs qui existent aujourd'hui, hein, vous les avez cités. Mais demain, ces mêmes applicatifs vont être boostés par des capacités de l'IA grâce à la combinaison de l'ensemble du réseau de satellites.
Et on le voit déjà, les agriculteurs se sont de plus en plus tournés vers ces données-là pour justement les aider à mieux assurer les récoltes et d'une certaine manière pour les populations assurer une meilleure sécurité alimentaire. On a vu que le secteur de l'aviation, c'est quand même un secteur qui est réglementé, qui est quand même très réglementé, et qui peut potentiellement, qui pourrait freiner l'implantation de l'IA. Est-ce que c'est le cas pour l'espace aussi? On a l'impression que c'est quand même beaucoup moins normé. Est-ce que je me trompe? Qui veut répondre, Sofiane, peut-être?
Ouais, peut-être je peux commencer, Siegfried, tu peux compléter. Mais c'est sûr que l'espace, c'est quand même un environnement extrêmement exigeant. C'est-à-dire qu'il faut quand même être capable de répondre à des requis d'opérations, de fabrication extrêmement exigeant et important. Toutefois, le niveau de régulation est moindre que je dirais que l'aérospatiale conventionnelle aérienne et habitée.
Donc, ce qui veut dire, et je vous laisse la parole dans quelques petites secondes, Siegfried, ça veut dire que s'il y a moins de réglementation, c'est aussi plus d'expérimentation possible dans l'espace. C'est ça que ça veut dire, Siegfried?
Oui, ben enfin, on a un bel exemple. Hein. Il était mentionné là, ouais, juste avant. C'est SpaceX. Ouais. SpaceX arrive, il a pas du tout d'expertise et d'historique spatial, et il arrive non seulement à lancer des fusées, mais à innover, et grâce à des investissements privés, alors que traditionnellement c'était des investissements publics qui alimentaient l'industrie aérospatiale. Donc ça, c'est un bon exemple où il n'y avait pas de barrière à l'entrée en termes de OK, vous avez la certification, vous ne l'avez pas. Ils sont arrivés, ils ont développé quelque chose, ça a marché, et ils sont en train de déstabiliser d'ailleurs l'industrie spatiale. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est pas réglementé et ça a des inconvénients, et on pourra peut-être en parler, mais ça a aussi des avantages. C'est-à-dire que l'innovation de Elon Musk et sa capacité à aller chercher des fonds privés a permis finalement de répondre à un besoin qu'avaient les États-Unis notamment pour pouvoir relancer leur développement spatial.
Un modèle disruptif qui crée un véritable laboratoire à ciel ouvert sans mauvais jeu de mots. Mais alors on va être obligé de conclure. Est-ce qu'on peut en conclure que l'utilisation de l'IA, de l'aérospatiale, dans l'aérospatiale à long terme, ça peut nous aider à mieux vivre sur Terre. J'aimerais vous entendre là-dessus et on finira sur cette question-là. On commence par Sofiane.
Absolument. Si on y intègre un développement éthique et responsable qui va répondre à nos grands défis de société, à nos grands enjeux sociétaux. Si c'est la prémisse de départ qu'on intègre à même le développement de cette intelligence artificielle, je suis certain qu'elle peut apporter une grande valeur pour l'ensemble de l'humanité, mais aussi particulièrement pour le secteur aérospatial.
Siegfried Usal.
Les progrès de l'humanité n'ont été possibles que grâce aux technologies. Et le génie humain de savoir bien utiliser ces technologies au service du progrès et pas au service de la destruction ou finalement de la régression. Le spatial a toujours été en tête de proue pour développer ces nouvelles technologies, avec justement, dans un espace non légiféré, dans un espace où on ne trouve pas de nation, pas de frontières. C'est peut-être pour ça que l'espace a toujours fait rêver, mais a toujours aussi permis à l'humanité de progresser. Donc, espérons que ça continue.
Merci à vous, Sofiane Benyoussi, je rappelle, et Siegfried Usal. Merci d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les questions que nous avons abordées au cours de cette émission, je vous invite à prendre votre agenda et à noter précieusement ces deux dates. 18-19 janvier prochain, l'événement AX Space. C'est une première, le tout premier événement dédié à l'IA dans le domaine spatial. Ça va se passer à Montréal, alors ça sera évidemment en virtuel. Et ce sont nos amis d'Innovitech en partenariat avec Euroconsult qui sont derrière cet événement exceptionnel. Allez, mon petit doigt me dit que vous allez être plus ou moins présents, Sofiane Benyoussi, Siegfried aussi, sur cet événement.
Certainement.
Certainement.
Thalès sera présent. Oui.
Thalès sera présent. Parfait. Bien évidemment, c'est sûr, Sia sera de la partie aussi pour s'en faire le relais. À la réalisation technique, Nchiche Doumbia et toute l'équipe de GTS. À la coordination plateau, Anne-Sophie Casper. À la direction éditoriale, Jonathan Chodjaï. Et à la recherche, Camille Singer. Merci à notre partenaire, le gouvernement du Québec, pour le soutien actif, toujours actif, à la réalisation logistique de cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci encore, Siegfried Usal. Merci.
Merci.
Et merci à Sofiane. Merci beaucoup, Sofiane Benyoussi. Philippe Regnault au micro. Pourquoi la conquête du ciel et de l'espace par l'IA peut-elle améliorer la vie des Québécois? Pour vous, on l'espère, c'est désormais plus clair. Merci de votre attention.
C'est science.
IA.